Bonjour Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, la guerre la plus célèbre de l'histoire, la guerre de Troie.
Chante, déesse, la colère d'Achille, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre, et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros. Qui des dieux les mit donc aux prises en telle querelle et bataille? Homère, l'Iliade, chant 1.
Mille ans d'histoire. C'est la guerre la plus célèbre de l'histoire, une guerre de 10 ans dont les héros s'appellent Achille, Ulysse, Ménélas, Agamemnon, Ajax, Hector, Priam, Hélène ou Pénélope. Depuis plus de 3000 ans, ils ont inspiré tant de romans, de pièces de théâtre, d'opéras et de péplums que tout le monde connaît leur nom, alors que personne ne sait exactement quand ils ont vécu, ni même s'ils ont vraiment existé. Pas plus qu'on ne sait qui était Homère, qui fut le premier à raconter leur histoire. Pendant plus de 3000 ans, on a même ignoré où était la ville dans laquelle ils s'étaient entretués, pour les beaux yeux d'une femme, ou peut-être tout simplement parce qu'elle était une des villes les plus puissantes de l'Antiquité.
La situation privilégiée de la ville de Troie, telle qu'elle existait il y a 30 siècles, la désignait tout particulièrement pour devenir la plus grande cité de l'Antiquité. Elle dominait en effet l'Hellespont. Nul ne pouvait venir d'Orient ou y partir sans passer par cette route maritime. Pour cette raison, la prospérité de Troie était grandissante. Mais toute médaille a son revers. Et la Grèce entière regardait avec envie s'accroître la richesse de son trop florissant voisin. Les Troyens n'ignoraient rien de cette convoitise. Aussi s'étaient-ils garantis contre toute attaque en élevant de hautes et puissantes murailles. Derrière ces murailles vivait un peuple heureux et épris de beauté.
Charles Delattre, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était le début d'un des très nombreux péplums qui se sont inspirés d'une guerre dont on ne sait même pas si elle s'est vraiment produite, la guerre de Troie. Vous êtes maître de conférences à Nanterre et spécialiste de la mythologie. Alors, est-ce que la guerre de Troie fait partie de l'histoire ou de la mythologie?
Je vais vous répondre sans hésiter qu'elle fait partie de la mythologie et même de la littérature. La guerre de Troie en tant que telle, si elle a existé, n'a jamais ressemblé à ce que l'on peut lire dans l'Iliade ou ce que l'on peut voir dans les péplums. La guerre de Troie, c'est de l'ordre de l'imaginaire, d'abord et avant tout.
Pourtant, beaucoup de gens disent elle s'est produite, bon, évidemment à Troie, il y a 3200 ans, il y a pas mal d'historiens qui sont catégoriques, elle a eu lieu, peut-être pas dans les conditions où Homère l'a décrite, mais elle aurait eu lieu.
Alors, il y a eu des villes, effectivement, qui se sont appelées Troie, qui se sont succédées sur le site de Troie, dont certaines ont été détruites par des invasions ou lors de conflits ou de guerres, mais une guerre de Troie au sens où vous en parlez maintenant, non.
Alors, autre mystère que vous allez sans doute dissiper, celui qui fut le premier à raconter cette guerre de Troie dans l'Iliade, c'est Homère. Alors, lui aussi, on ne sait pas très bien ni où, ni quand il a vécu, ni même s'il a vraiment vécu.
Là encore, nous nous trouvons devant un problème. Homère, c'est avant tout un nom, un très grand nom, mais un nom qui cache une foule derrière lui. Homère, s'il a existé, il est probable qu'il ait existé d'ailleurs, n'est que l'héritier d'une longue tradition de poètes qui, avant lui, ont composé, ont modelé, ont reformulé les différents épisodes de la guerre de Troie.
Ce qu'on appelait des aèdes. Hein,
des aèdes, exactement. Ouais. C'était des poètes techniciens de l'oral, des techniciens de la parole chantée, qui ont progressivement composé ce qui est devenu aujourd'hui le texte que nous connaissons, qui est celui de l'Iliade.
Mmh. Oui, donc c'est un poète, c'est pas un historien, comme le sera 3 siècles après lui Hérodote. On dit qu'il a vécu à peu près, je crois, au 8e siècle Homère, c'est-à-dire très longtemps, 7 siècles environ avant la date présumée de la présumée guerre de Troie.
Tout à fait, il a vécu 7 siècles après cette guerre de Troie, donc il n'en connaissait que ce que ses prédécesseurs avaient pu en dire. Et Homère lui-même est un cas particulier, étant donné qu'il est dans une période charnière, à la frontière entre une littérature orale, proprement orale, et l'apparition de l'alphabet, qui va introduire une grande révolution dans son monde. Il est vraiment à une période frontière entre deux civilisations.
Au 8e siècle, alors justement, est-ce qu'il s'agit de la civilisation grecque? Parce qu'on l'a entendu dans le petit texte qui commençait l'émission, il ne parle pas de
grec, mais d'achéen. Et je crois que c'est après Homère que les Grecs se sont appelés des Grecs, Charles Delattre.
Alors, il y a une multitude de noms pour se désigner, pour que le peuple grec se désigne lui-même. Nous-mêmes, pour l'époque qui concerne la guerre de Troie, nous parlons de Mycéniens. Les Grecs parlaient d'Achéens, parlaient de Danaïens. Ce sont différents noms qui se mêlent de façon poétique.
Parce qu'à l'époque de la guerre des Troie, la grande capitale, parce que nous on connaît la Grèce de Périclès, etc., et d'Athènes, c'est-à-dire le 5e siècle, à l'époque de la guerre de Troie, c'est-à-dire plusieurs siècles avant, la grande ville, c'était Mycène. C'est pour ça qu'on dit les Mycéniens.
Voilà, au 15e, 14e siècle avant Jésus-Christ, c'était Mycène. Mais ce n'était pas la seule grande ville de l'époque. Il y avait également Tirynthe, pas très loin, dont il existe encore des ruines. Il existait Knossos, en Crète, Pylos, dans le sud de la Grèce. C'est un ensemble de cités, sans doute rivales, qui parsemaient le continent grec, et qui étaient certaines d'une richesse tout à fait importante. Homère lui-même continue à parler de Mycène riche en or.
Donc plusieurs cités divisées, des petits royaumes, qui dans le récit d'Homère vont se rassembler pour venger l'honneur du roi de Sparte, Ménélas, dont la femme Hélène a été enlevée par un Troyen, et c'est le prétexte qui a déclenché la guerre de Troie.
Ulysse, roi d'Ithaque, sois le bienvenu. Tu connais toute l'assistance. Mon ami Ajax, prince de Salamine, Nestor, roi de Pylos, Diomède, le chef de l'Étolie, et tu connais aussi mon frère Agamemnon, roi de Mycène.
C'est la guerre pour le bon droit que nous projetons, Ulysse. La guerre contre une agression possible.
Ah, alors c'est un conflit au nom de la justice.
Crois-tu que les Troyens aient bâti une citadelle par amour de la paix? Tu ne connais pas les fils de Priam? Polydore ne rêve que de nous battre. Hector voudrait nous provoquer. Quant à Paris, il remporte tous les prix, qu'il s'agisse de l'arc ou du javelot. Crois-tu que de tels hommes désirent la paix?
C'est une raison de plus pour ne rien décider sans la présence d'Achille de Thessalie.
Que tous nos bateaux prennent la mer.
Nous allons demander l'aide de toutes les cités de la Grèce. Tous les peuples vont s'unir dans une guerre pour l'honneur.
Oui, l'histoire la nommera probablement ainsi.
C'est son nom dès maintenant.
Et ce sera donc la guerre de Troie. Alors, on a parlé des Grecs, Charles Delattre, de la Grèce, avant même qu'elle ne s'appelle encore la Grèce. On n'a pas parlé de Troie. Et il est vrai que pendant des siècles, jusqu'au 19e siècle, on ne savait même pas, un, si la ville existait, et deux, où elle se trouvait.
En fait, à l'époque romaine, il existait un petit village à proximité des ruines actuelles qui revendiquait l'héritage de l'ancienne Troie, mais évidemment, l'époque n'était pas aux fouilles, et progressivement, même cette ville romaine est tombée dans l'oubli. Cette ville grecque dans l'Empire romain est tombée dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1870 que Heinrich Schliemann, un archéologue plus ou moins aventurier allemand, s'est rendu sur le site, après quelques autres d'ailleurs, sur la côte de Turquie.
Lui était passionné par la guerre de Troie. Il avait l'Iliade entre les mains quand il s'est promené dans la région.
Ouais. Il était totalement fanatique. Et donc, il a lui-même déclaré qu'en se guidant sur le récit d'Homère, il s'est rendu sur la côte de Turquie et, grâce à Homère, a retrouvé le site de Troie. Plus exactement, il a découvert sur la colline d'Issarlique, une accumulation de différentes villes, 9 Troies superposées comme un château de cartes.
Oh, il y avait plusieurs Troies. Hein,
plusieurs, il y en avait 9 en tout, de 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque romaine. Et il a décrété celle du niveau 7A était la plus susceptible d'être la Troie d'Homère à cause des restes de murailles qu'il avait pu mettre au jour.
Est-ce qu'on a une idée de la puissance que pouvait avoir Troie? Parce que dans le récit d'Homère, on a l'impression, et dans ceux qui ont suivi d'ailleurs, on a l'impression qu'au fond c'est moins pour venger l'honneur du roi de Sparte que les Grecs sont partis à attaquer Troie. C'est aussi pour ses richesses. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'était cette ville il y a à peu près 3000 ans, Charles Delattre?
Alors, le récit d'Homère exagère, étant donné qu'il fait d'un conflit un choc de civilisation quasiment entre Troie magnifique et l'ensemble du monde grec. La Troie historique était une bourgade qui contrôlait en partie les détroits, qui donc avait partie liée au commerce méditerranéen. Elle n'était pas la plus grande ville de l'Antiquité, mais c'était une ville tout à fait importante à son époque, c'est-à-dire au 13e, 14e siècle avant Jésus-Christ. La Troie qui précède même la Troie 7A, la Troie numéro 6, était même relativement étendue et, semble-t-il, possédait de grandes richesses. C'était une ville tout à fait importante.
C'est le fameux trésor de Priam, Priam qui, selon Homère, était le roi de Troie à l'époque, Charles Delattre. Alors, justement, cette ville, il faut le rappeler, on l'a entendu aussi dans cet extrait de Péplum au tout début, elle est sur un lieu stratégique, c'est-à-dire tout près des détroits qui séparent la mer Noire de la mer Égée. Donc, c'est aussi une des raisons qui pouvait motiver l'intérêt des Grecs quand ils sont partis l'attaquer.
Alors, s'il y a eu des motivations économique sous-jacente à l'une des guerres de Troie, il est probable que le contrôle des détroits en faisait partie. Maintenant, les différentes Troies ont pu être détruites également simplement pour des querelles de voisinage, pour des problèmes de frontières ou ce genre de choses. L'expédition des Grecs contre Troie en tant que telle n'a pas eu lieu. Donc toutes les spéculations historiques sur leur motivation relèveraient plutôt du fantasmatique et de la littérature.
Alors justement, selon le fantasmatique, selon la littérature, selon Homère, elle a eu lieu et c'est donc devant ces puissantes murailles qu'arrivent un jour les Grecs et leur chef Agamemnon pour venger l'enlèvement d'Hélène.
L'enquêteur n'avait encore jamais signalé autant de bateaux, Seigneur.
C'est parfait, nous saurons les recevoir. Ils sont trop pour qu'on puisse les compter. 500 à 600 au moins, et même davantage.
Il y a sûrement plus de 1000 bateaux.
Ces murailles troyennes sont notre force et notre sauvegarde. Surtout que personne ne passe de zèle. Il ne faut répondre à aucune attaque avant que nos remparts ne soient à même de jouer leur rôle.
Où allons-nous camper, Agamemnon ?
Nulle part. Attaquons. Il faut abréger la captivité d'Hélène.
Attaquons, et nous camperons ce soir dans le palais troyen.
Nous attaquer aux murailles de Troie ? Jamais de la vie, Achille. Des préparatifs sont nécessaires contre ces forteresses.
Ulysse a raison. Il faut se préparer.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la guerre de Troie.
Et c'est d'après un péplum, donc, la façon dont commençait le siège, un siège qui a duré 10 ans, selon Homère. Cela dit, le récit d'Homère, on l'oublie toujours, ne traite pas les 10 ans de la guerre de Troie, c'est simplement la dernière année. Ça commence au moment, je crois, où Achille renonce à se battre.
Très exactement, le récit d'Homère ne couvre que 51 jours de la 9e année du siège de Troie, ce qui est excessivement peu. Le récit d'Homère ne concerne pas la guerre de Troie en tant que telle. Le récit est centré autour du personnage d'Achille et autour de sa grande colère motivée par le fait qu'on lui ait enlevé, contre tout honneur, une de ses captives. C'est à partir du moment où il se réfugie sous sa tente et refuse le combat, là commence le récit, et le récit ne s'achève que lorsque Achille véritablement a décidé de renoncer à sa colère et de se relancer au combat.
Mais comment sait-on justement ce qui s'est passé avant, en tout cas dans la mythologie, puisque vous dites que la guerre de Troie ne s'est jamais produite, mais les 10 premières années, que sait-on de ces 10 premières années du récit et par qui ?
Mais heureusement, il n'y a pas qu'Homère dans la littérature archaïque. On connaît d'autres poètes, malheureusement, on n'en connaît souvent que les noms. Arctinos de Milet, Prodicos de Phocée, ce sont des noms qui ne nous disent rien, car on en a conservé essentiellement des résumés de 5 lignes ou des petits vers fragmentaires qui se baladent par-ci par-là dans les commentaires. À partir d'eux, on a pu reconstituer, enfin les Grecs eux-mêmes de l'époque classique hellénistique et romaine ont reconstitué tout le fil des événements et nous ont transmis par biais de dictionnaires, par biais de résumé mythologique, l'histoire de la guerre de Troie.
Et en exagérant, on a entendu tout à l'heure, et ça se trouve dans Homère, qu'il y avait plus de 1000 bateaux, aucune force grecque n'aurait pu rassembler, même tous les Grecs ensemble n'auraient jamais pu rassembler 1000 bateaux, Charles Delattre.
Oui, c'est à peu près certain. Les Grecs n'étaient pas la grande puissance maritime de l'époque, de toute façon. S'il y a eu une grande puissance maritime quelques siècles auparavant, c'était la puissance minoenne, la Crète, au 15e, 14e siècle avant Jésus-Christ. Mais au moment où nous parlons, c'est-à-dire 13e, 12e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a plus de force maritime, même si le commerce continue à s'exercer.
Mais quel était l'objectif d'Homère en écrivant justement l'Iliade ? C'était quoi ? C'était rassembler les Grecs, leur donner une cause commune en se battant contre les Troyens ?
Je dirais que son premier objectif était de faire plaisir à son auditoire et de lui raconter de belles histoires.
Comme tous les écrivains.
Comme tous les écrivains, comme tous les auteurs, comme tous les grands artistes. Homère avait pour but peut-être de gagner sa vie, tout simplement, en racontant ses histoires. C'est déjà un point qu'il ne faut pas négliger. Et ensuite, il a accumulé, et les autres aèdes avec lui, ont accumulé toute une série de procédés littéraires, pour charmer un auditoire qui demandait toujours à en savoir davantage sur des héros magnifiques du temps passé.
Alors nous, grâce à l'Iliade, grâce à Homère, grâce aussi à son Odyssée, on en sait plus aussi sur, et on s'en rend compte, sur ce qu'étaient ces Grecs d'avant Périclès, ces Grecs donc de 1000 ou 1200 ans avant Jésus-Christ. Et d'abord, il donne aux Grecs des héros pour modèle. Hein. Ces héros sont... J'ai lu quelque part qu'un poète contemporain de Homère, qui s'appelait Hésiode, qui lui a existé, mais dont on parle beaucoup moins que d'Homère, avait écrit un recueil de poèmes, Les Travaux et les Jours, dans lequel il évoque ce qu'il appelle l'âge des héros, pendant lequel se serait produite la guerre de Troie.
Alors effectivement, dans les travaux et les jours, Hésiode interrompt un instant son propos qui est de raconter les travaux des champs pour raconter un mythe originel qui est le mythe des races. Et il explique que cinq races d'hommes se sont succédées, la race d'or, la race d'argent, la race de bronze, et entre la race de bronze et la race de fer, la race des héros, qui est la race d'Achille, la race d'Agamemnon, la race de ces gens qui ont vécu dans un passé lointain pour les Grecs, mais un passé qui n'est jamais totalement révolu, un passé qui fait constamment partie de leur présent, parce qu'ils continuent à s'y référer. Et c'est là peut-être le plaisir ultime de l'auditoire qui écoute Homère à l'époque archaïque, c'est-à-dire au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est d'entendre parler de gens auxquels ils se rattachent, dont ils se prétendent souvent les descendants et qui font partie de leur propre histoire, au moins du point de vue de l'imaginaire.
Alors des héros dans la guerre de Troie, dans l'Iliade, il y en a des deux côtés. Hein. C'était Achille chez les Grecs et Hector, le fils de Priam, le roi des Troyens, deux hommes qui vont donc s'affronter dans une des scènes les plus célèbres de l'Iliade, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Dans le chant 22 de l'Iliade, Homère raconte le duel d'Hector et d'Achille, un récit où se mêlent le sang, les dieux, les sentiments humains. Et là, nous sommes au moment où Hector, trompé par Athéna, sait qu'il va mourir. « Je le vois bien, dit-il, les dieux m'ont appelé à la mort, il n'y a pas moyen de lui échapper. Mais vrai, je ne saurais périr sans glorieusement combattre. » À ces mots, poursuit Homère, Hector tira son épée. Il se ramassa sur lui-même et fondit comme l'aigle, agitant son épée. Et Achille s'élança, le cœur rempli d'une fureur sauvage. Il couvrit sa poitrine de son bouclier, son casque brillant s'inclinait sur sa tête. Dans la nuit, ainsi va parmi les étoiles, l'étoile du soir, l'étoile la plus belle. Et ainsi va le javelot qu'Achille brandit de sa main droite, les yeux sur Hector, sur l'endroit de sa plus faible résistance. Hector, en effet, est recouvert d'une sorte d'armure qui lui protège tout le corps, mais pas exactement tout le corps, il a lui aussi un point faible. Les belles armes de bronze gardaient partout son corps, poursuit Homère, hormis un endroit, celui où les clavicules séparent le cou, la gorge, des épaules, l'endroit où se perd le plus promptement la vie. Ce fut là que, sur Hector, plein d'ardeur, Achille poussa son javelot. La pointe alla tout droit traverser le cou délicat, il s'abattit dans la poussière. Hector, alors, implore Achille de rendre son corps à sa famille. « Je t'en supplie, ne laisse pas les chiens me déchirer. Rends mon corps chez nous, afin que les Troyens m'accordent étant mort le feu d'un bûcher. » Mais Achille est inflexible. « Non, dit-il, les chiens, les oiseaux te déchireront tout entier. Tu as dans les entrailles un cœur de fer, lui répond Hector. Prends garde à présent à la colère des dieux. » Comme il disait ces mots, pour lui, ce fut la fin, et la mort le recouvrit. Son âme, quittant ses membres, prit son vol et s'enfuit vers l'Hadès. L'Hadès, l'Empire des Morts.
C'est plutôt le dieu des morts, non, je crois.
C'est
le Pluton des Romains, oui.
Ensuite, je résume, Achille dépouille Hector de ses armes et rassemble ses hommes qui s'acharnent à frapper le cadavre. Puis, poursuit Homère, Achille imagina d'infliger au divin Hector un traitement indigne. À l'arrière des deux pieds, il perça les tendons, il y adapta des courroies en peau de bœuf, les attacha à son char et laissa traîner la tête d'Hector. Il monta sur son char et donna du fouet pour aller de l'avant. Le corps d'Hector, en traînant, faisait un nuage de poussière. Autour, les sombres cheveux étaient déployés et toutes gisait dans la poussière cette tête jadis charmante que Zeus avait livrée à ses ennemis.
C'est un bel extrait de l'Iliade, Charles Delattre. C'est vrai que c'est un récit imaginaire, mais c'est très beau et c'est très violent aussi en même temps. On vient de l'entendre, c'est terrible le sort d'Hector.
C'est d'une violence extrême et ça fait écho à d'autres passages de l'Iliade où l'on voit des héros se massacrer à grands coups de javeline ou d'épée. Les descriptions homériques sont sanglantes, sont même abominables. Parfois, vous avez des détails d'os qui sont tranchés, d'yeux qui tombent dans la poussière. C'est absolument terrible. Mais apparemment, ça faisait partie du goût de l'époque et le public devait en redemander.
Du goût d'aujourd'hui, et on a l'impression qu'au fond, il y a de la violence, il y a même du sexe, au fond, d'une certaine manière.
Oui, pas forcément là où on le voudrait aujourd'hui.
L'enlèvement
des laines.
Achille qui couche avec Brisaïs.
Oui, mais il ne l'aime pas pour autant.
Ah
c'est,
bon
c'est son droit de maître. Brisaïs est sa captive, donc il couche avec elle. Mais les Grecs de l'époque plus tardive insisteront sur le fait que si Achille couche avec quelqu'un, c'est plutôt avec Patrocle, pas avec Brisaïs.
Et puis alors, il y a quelque chose qui est omniprésent, notamment dans le récit que l'on vient d'entendre, le combat singulier. Je crois que ça se faisait beaucoup, d'ailleurs, les combats singuliers. On voyait deux armées face à face, et puis il y avait les deux héros qui s'affrontaient tout seuls pour éviter un trop grand nombre de cadavres.
Oui, c'est la technique du combat homérique, effectivement. Les batailles rangées ne sont des batailles rangées que pour amener les soldats sur le lieu de la bataille.
Comme spectateurs.
Et ensuite, ce sont les duels qui s'établissent. Et souvent, les passages de l'Iliade ne sont qu'une longue liste de noms qui s'entrechoquent et de duels de combats singuliers. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce combat entre Hector et Achille, dans la mesure où il est extrêmement ambigu, parce qu'il semble mettre en valeur un combat héroïque entre deux guerriers magnifiques. Et en fait, fait, le combat est un petit peu spécial dans la mesure où Achille ne se conduit pas forcément comme un véritable héros. Ils se combattent comme de véritables héros parce qu'ils se lancent dans un duel à mort, mais le traitement qu'Achille inflige au corps d'Hector est absolument anti-héroïque et sera sanctionné par l'indignation des dieux. Donc là, nous sommes dans un passage qui montre justement toujours la limite entre l'héroïsme extrême, la valeur, la morale héroïque qui est très très forte, l'appel à la gloire, au kleos grec, ce que les latins appellent la fama, mais en même temps, un possible renversement, un possible retournement. Achille est parfois proche de la sauvagerie, et c'est là un cas où il franchit la limite.
Oui, mais ça va à l'encontre, finalement, d'une valeur très chère aux Grecs, qui était très présente dans l'Iliade, c'est le sens de l'honneur. Là, il est vraiment exalté dans les récits d'Homère.
Totalement, c'est pour ça que le véritable héros, au sens noble de l'Iliade, n'est pas forcément Achille, mais plutôt Hector. Hector est le guerrier magnifique qui obéit à toutes les règles du code héroïque, qui les rappelle à son épouse Andromaque dans une scène magnifique au chant 6 de l'Iliade et qui va mourir en menant jusqu'au bout toutes les valeurs du code héroïque. Achille lui-même souscrit en grande partie à ces règles puisqu'il accepte de venir mourir sous Troie plutôt que de mener une vie sans gloire, mais Achille est constamment dans l'exagération et dans l'excès, et c'est pour cela que la fin de l'Iliade va établir une sorte de renversement de situation où il faudra pas moins que l'indignation des dieux et l'intervention du vieux Priam, le père qui vient supplier le meurtrier de son fils, pour ramener enfin Achille à la raison et le faire rentrer dans le rang.
Alors il y a aussi autre chose dans l'Iliade et dans ses héros de l'Iliade, il y a également le fait qu'il défie et le destin, c'est-à-dire en fait il défie les dieux. Il refuse le destin. Achille et Hector savent qu'ils auront une vie courte, mais ils refusent ce que leur impose cette vie courte que leur imposent les dieux. Charles Delattre.
Il ne refuse pas exactement le destin.
En tout cas, il se dresse contre lui.
Il se dresse contre les dieux, mais il ne se dresse pas contre leur destin. Le destin des humains est de mourir. Et Achille en particulier a choisi de mourir jeune. Pour lui, c'est tout à fait explicite. Il a eu le choix et il a fait ce choix. Il l'assume et il le redit dans plusieurs épisodes de l'Iliade. En revanche, il n'identifie pas le destin avec les dieux. Ils peuvent s'élever contre les dieux dans la mesure où les dieux sont divisés en deux camps. Il y a des dieux grecs qui aident les Grecs. Et il y a des dieux, tout aussi grecs, qui soutiennent les Troyens. Apollon, par exemple, est tout entier du côté des Troyens.
Alors c'est pas le sens de l'honneur, l'héroïsme d'Achille et d'Hector qui va permettre finalement l'issue de cette guerre et la victoire des Grecs sur les Troyens. C'est la ruse d'Ulysse donc qui conçoit le plan qui va donner la victoire aux Grecs en faisant semblant de renoncer à la prise de Troie, de s'en aller en laissant derrière eux un objet célèbre qui va leur donner la victoire en trompant les Troyens.
Le dernier de leurs bateaux vient de prendre le large.
Annoncez la nouvelle. Allumez la torche de la victoire.
Regarde, Priam.
Seigneur, les Grecs ont laissé devant nos murs un étrange monument.
Je crains les Grecs quand ils font des présents.
Seigneur, le peuple demande la permission d'amener ce curieux trophée dans la cité.
Ils ont été braves, je ne peux leur refuser cette joie. Accueillons ce cheval sacré. Il restera comme le symbole de la valeur troyenne.
Bien, Seigneur.
Vive le peuple.
La destinée.
Et la destinée, ce sera ce fameux cheval de Troie qui va donner la victoire aux Grecs, puisque à l'intérieur, quelques Grecs sont entrés dans la ville de Troie pour ouvrir les portes à l'armée grecque qui est revenue entre-temps. C'est le véritable héros, au fond, aussi. C'est un des héros de cette guerre, le cheval de Troie. Et pourtant, assez curieusement, vous l'avez dit, Charles Delattre, il n'est pas dans l'Iliade.
Effectivement, l'Iliade s'achève sur les funérailles d'Hector. L'épisode du cheval de Troie, en revanche, est évoqué dans l'Odyssée, dans un passage assez bref. Et ensuite, il sera repris dans d'autres épopées aujourd'hui perdues, et sera repris encore par Virgile dans l'Énéide, qui en fera un tableau tout à fait magnifique.
Oui, vous évoquez donc l'Odyssée d'Homère, la suite en quelque sorte de la guerre de Troie, hein, le voyage d'Ulysse de retour à Ithaque, et puis Virgile, parce que là, le mythe va se poursuivre, puisque selon Virgile, cet aîné, un Troyen rescapé de la guerre qui va fonder Rome, comment se fait-il, au fond, que depuis des siècles, cette histoire ait pu fasciner, comme ça, les historiens, ait pu fasciner les écrivains, etc. Ça a duré, il y a plus de 30 siècles que ça dure.
Il y a plus de 30 siècles que ça dure et ce n'est pas fini. C'est une matière qui est extraordinaire, c'est une matière qui est faite de sang, de larmes, mais c'est une matière qui est faite également de passion humaine. L'Iliade, au-delà du simple décor de la guerre de Troie et des massacres et des combats singuliers, c'est aussi l'histoire d'un homme, Achille, et de ses sentiments, de sa passion, de sa colère. C'est là-dessus que s'ouvre l'Iliade. Le premier mot de l'Iliade, c'est « Menis », la colère d'Achille, et c'est cette colère, cette passion humaine qui fait véritablement tout l'enjeu du récit homérique.
Mais la morale de cette histoire aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Parce qu'au fond, c'est très actuel, cette histoire, on la retrouve, vous nous disiez tout à l'heure avant l'émission, le 6 juin 44, c'est au fond le débarquement des Grecs devant Troie. On pourrait même dire qu'au fond, ça explique beaucoup de choses. Le déclenchement des guerres, on invoque toujours un prétexte noble, que ce soit l'enlèvement d'Hélène ou aujourd'hui le rétablissement de la démocratie en Irak, quand parfois, le vrai prétexte, il est plus prosaïque, c'est le pétrole en Irak, ou c'est la richesse, la fortune, le trésor de Troie.
Oui, chaque œuvre reprend l'Iliade à sa façon et va lui donner sa propre marque. Les images de Troie, le film récent qui montre un débarquement des Grecs à la façon du 6 juin 44 en Normandie, montrent qu'on pourrait très bien interpréter ce film aussi comme un choc de civilisation et comme une nouvelle version de la guerre entre les États-Unis et l'Irak, par exemple.
Merci Charles Delade de nous avoir rappelé donc cette guerre mythique. On la retrouve aussi, et on retrouve aussi la Grèce de cette époque dans plusieurs livres. Le Monde d'Ulysse de Mos Finlay, publié chez Point Seuil. Le Monde d'Homère de Pierre Vidal-Naquet, publié chez Perrin. Et puis une biographie d'Homère, écrite par Pierre Carlier, publiée chez Fayard. Et également, ça vient de paraître aux Belles Lettres, les récits inédits sur la guerre de Troie. Et puis bien sûr, l'Iliade et l'Odyssée, une lecture idéale pour les vacances. Deux textes disponibles dans plusieurs éditions de poche, et notamment chez Folio. Vous avez pu entendre des extraits du film de Robert Wise, Hélène de Troie, avec Jacques Cernas dans le rôle de Paris et Rosanna Podesta dans celui d'Hélène. Vous pouvez retrouver toutes ces références en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Jérôme Pavard, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.